Radio Classique, les spécialistes.
Je vous rappelle le programme de la semaine, c'est Geoffroy Roux de Bézieux qui sera l'invité politique de la matinale, le patron du MENEF. Nous recevrons demain Marine Le Pen. Et puis la semaine suivante avec Cédric Valiani, donc, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'actualités autour de la mairie de Paris. Commençons avec vous, mon cher Emmanuel Faux. Je salue Dimitri et bien évidemment Élodie. L'avenir de la Libye en question, 9 ans après la chute du régime de Kadhafi. Comment mettre fin à la guerre civile et au chaos qui règne dans ce pays et qui malheureusement se répand dans toute l'Afrique subsaharienne? C'est l'objet de la conférence qui s'est tenue hier à Berlin. Un résultat ou zéro résultat?
Alors, je vais vous dire ça dans un instant. En tout cas, déjà, il y avait une forte présence diplomatique, puisque pas moins de 11 dirigeants étrangers étaient présents, dont le russe Poutine, le turc Erdogan, l'américain Pompeo, secrétaire d'État, Emmanuel Macron pour la France, le premier ministre britannique Johnson et Angela Merkel.
J'adorais m'appeler Pompeo.
Qui recevait. Et puis, il y avait les deux acteurs principaux de la partition actuelle qui déchire la Libye. Alors, je vais essayer de faire simple, même si je vous assure, c'est pas simple du tout. En gros, il y a d'un côté le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayyad al-Sarraj, qui est reconnu par l'ONU et qui règne sur l'ouest du pays et la capitale Tripoli. De l'autre, il y a le maréchal Khalifa Haftar qui tient l'est et le sud du pays et qui tente depuis plusieurs mois de prendre le contrôle de Tripoli. Derrière chacun de ces deux acteurs, et c'est bien tout le problème, on trouve plusieurs pays étrangers qui soutiennent un camp ou un autre en fonction de leurs intérêts régionaux propres et de leurs appétits pétroliers, puisqu'on le sait évidemment, la Libye est une grande puissance gazière et pétrolière. Alors, qui soutient qui? À l'ouest, le gouvernement du Union nationale, il est appuyé par la Turquie, qui cherche à retrouver, vous savez, une influence dans toute la région. On l'a vu avec la Syrie. De l'autre côté, il y a le maréchal Haftar, qui a le soutien des Russes et des pays du Golfe, et qui plaît beaucoup aussi aux voisins égyptiens, qui voient en lui un chef autoritaire qui est prêt à combattre l'islam politique dans la région. Quant aux Américains et aux Européens, eh ben, ils sont en retrait. Ça correspond évidemment à la stratégie générale de l'administration Trump de désengagement. Et puis les Français et les Britanniques, ben c'est peu dire qu'ils ont laissé un mauvais souvenir après la chute du colonel Kadhafi en 2011 et le chaos qui règne depuis. Mais tous étaient quand même présents hier à Berlin pour cette conférence.
Voilà, quel est le résultat, Emmanuel Faux?
Alors on y vient. Le but premier, c'était de que les armes se taisent durablement, donc garantir le cessez-le-feu qui a été conclu lundi dernier à Moscou entre les Russes et les Turcs. Deuxième point très important, que l'embargo sur les livraisons d'armes décidé par l'ONU, mais qui est constamment violé par ces pays étrangers, soit enfin respecté. Et c'était le pari notamment de l'envoyé spécial de l'ONU, Ghassan Salamé, qui a demandé aux forces étrangères de s'engager à cesser de verser de l'huile sur le feu, de cesser leur ingérence dans les affaires libyennes. Alors, ils se sont engagés dans les mots, ça sera vérifié sur place évidemment dans les prochaines semaines. L'objectif, c'est de favoriser une négociation politique entre les deux blocs adverses que je viens de vous décrire, celui du gouvernement al-Sarraj et celui du bouillant maréchal Haftar. Mais à ce stade, il s'agit encore d'un vœu pieux, parce qu'hier, à Berlin, les deux hommes ne se sont même pas rencontrés.
Voilà, rappelons que le maréchal tient l'est du pays, donc, et Fayez al-Sarraj, gouverne l'est du pays. C'est important. Nous allons revenir sur la réforme des retraites tout à l'heure avec Geoffroy Roux de Bézieux, mais vous avez sous les yeux, et d'ailleurs sous la main, des études, mon cher Dimitri Pavlenko, qui sont des projections sur, au fond, ce que pourrait être le monde du travail dans plusieurs années.
Pas le monde des retraites, plus exactement.
Voilà, le monde des retraites et du travail, c'est à peu près la même chose. C'est justement ça qui est l'enseignement essentiel de cette étude, à savoir qu'on va travailler de plus en plus tard.
Oui, en fait c'est ça. Alors c'est cette fameuse étude d'impact que les syndicats réclament depuis maintenant 10 jours de manière très appuyée dans les médias, mais ça faisait longtemps qu'elle voulait le savoir. Effectivement, cette réforme des retraites que le gouvernement prépare, qu'est-ce qu'elle va changer concrètement? Alors Le Monde a publié d'abord des morceaux, une version intermédiaire de cette fameuse étude d'impact qui va être annexé au projet de loi qui est présenté vendredi en Conseil des ministres. Et les Échos, on a su un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude d'impact? Alors d'abord, elle passe en revue une vingtaine de scénarios, une vingtaine de profils, des fonctionnaires, des salariés qui sont nés donc en 1980 ou 1990. Donc, vous savez, c'est la tranche d'âge qui va être née, cette réforme des retraites. Bon, je ne vais pas tous les passer en revue, ce serait un petit peu long et fastidieux. En revanche, ce que l'on peut dire, c'est que d'une part, globalement, le gouvernement, dans cette cette étude d'impact mettent en avant le fait qu'il va quand même y avoir quand même des gagnants. Si vous prenez les gens qui ont eu un tout petit salaire tout au long de leur carrière, le taux de conversion, c'est-à-dire la différence entre leur salaire et leur pension de retraite, bah, ils vont franchement y gagner de 52 à 70%. Mais la condition, c'est quoi? C'est qu'il faudra respecter ce fameux âge d'équilibre. Vous savez, on ne parle plus d'âge pivot, on parle d'âge d'équilibre, qui, dans les simulations faites par le gouvernement, est fixé à 65 ans. 65 ans, ça fait tard, mais ça va changer pas mal de choses, notamment pour ceux qui ont des petits salaires. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va avoir un impact sur les comportements. Vous savez, on a parlé de cet âge pivot qui existe sur les complémentaires. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, ça n'a rien changé. Les gens partent pas plus tard, même s'il y a un âge pivot sur leur complémentaire. Là, vous avez quand même un retraité sur deux qui va changer son âge de départ en fonction de ces nouvelles règles. Vous en avez qui vont partir plus tard. C'est ce qui est attendu par le gouvernement. Mais vous en avez aussi qui vont partir plus tôt. Pourquoi? Parce que dans le système actuel, avec le comptage par trimestre, ils sont censés partir à 67 ans. Vous vous rendez bien compte que si vous pouvez partir à 65 à taux plein, ça vaut le coup de partir deux ans en avance. Sur le long terme, quand on regarde ce qui va se passer dans l'horizon 2040-2050, c'est qu'on partira de plus en plus tard. Et le fameux âge d'équilibre, il va sans doute être reporté. Pourquoi? Parce qu'on vivra sans doute plus longtemps et qu'il y a une règle dans le calcul des pensions qui dit que si vous vivez plus longtemps, c'est normal que ce temps de vie supplémentaire, vous y consacriez une partie au travail. Mais on aura aussi des pensions qui seront globalement plus importantes. Alors évidemment, il y a des cas qui varient d'une profession à l'autre. Mais voilà, on travaillera plus, mais on aura globalement des pensions plus importantes.
Vous avez dit les gagnants, mais les perdants dans cette affaire. C'est ceux qui, sur 25 ans, le salaire va évoluer considérablement. C'est-à-dire que
vous démarrez avec un petit salaire et que vous faites fortune, à la fin, vous finirez par être perdant.
Eh bien non, vous serez gagnant, mon cher Guillaume. Vous serez gagnant parce qu'en fait, les droits que vous aurez acquis sur ces 10 000 premiers euros de salaire, eh bien, vous ouvriront des droits plus importants. Vous savez, il y a tout aussi le chapitre de la retraite par capitalisation qui est un petit peu en toile de fond aussi du débat sur la retraite. La capitalisation, ça va être de plus en plus intéressant. Je vous invite à en reparler avec Geoffroy Roux-de-Bézieux sur cette polémique BlackRock et la retraite par capitalisation qui se dissimulerait derrière la réforme des retraites.
Voilà, il est 7h46 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons passé en revue la politique étrangère et l'économie. Nous arrivons à la culture avec Pierre Lemaître. Au revoir là-haut fut à la fois le Goncourt. Vous savez que Pierre Lemaître, au départ, est un auteur de romans policiers qui est revenu au roman classique, s'est intéressé donc à des aspects assez particuliers de la Première Guerre mondiale. Et c'est une trilogie dont voici donc, c'est le deuxième tome.
C'est le troisième tome, c'est le troisième de tome. Ouais, et c'est devenu une trilogie presque à son insu.
Voilà, mais c'est le livre qui est en tête des ventes actuellement.
Hein. Exactement, 7 ans après Au revoir là-haut, Pierre Lemaître publie donc Miroir de nos peines, qui s'installe, vous le disiez, en tête des meilleures ventes ce mois-ci. Un roman qui peut se lire indépendamment des précédents, mais qui clôture cette trilogie sur l'entre-deux-guerres que l'auteur a posteriori appelle Les enfants du désastre. Trilogie qu'il a fait presque à son insu, et vous avez tout à fait raison, c'est une drôle de trajectoire que celle de Pierre Lemaître, qui était romancier depuis l'âge de 20 ans, mais jamais publié. À la soixantaine finalement, un de ses manuscrits finit par taper dans l'œil de Gallimard. C'est un polar, il commence à avoir le prix du Festival de Cognac. C'est une belle carrière d'auteur de romans policiers qui s'ouvre à lui, jusqu'à ce Au revoir là-haut, qui est parti pour être un polar, mais ça ne rentre pas dans le cadre, cette histoire d'arnaque sur les monuments aux morts, et ça devient autre chose, une chose sacrément bonne, puisque ça rafle le Goncourt, et que ça devient surtout un des livres les plus achetés de la décennie. Alors bon, en bon feuilletoniste, que fait le maître? Eh bien, il tire un fil et il tricote la vie d'un personnage autrefois secondaire. C'est Louise, on avait fait sa connaissance quand elle était petite fille dans Au revoir là-haut. Là, elle est jeune fille, elle est institutrice. Le samedi, elle est serveuse dans un restaurant qui s'appelle La Petite Bohème. Et puis, tous les samedis, il y a un habitué, le docteur Thirion, qui vient. Ça fait des années qu'il est là, un pourboire, il est très poli. Et un jour, il lui demande, pour une somme considérable, s'il peut, le temps d'un instant, la voir nue. Elle accepte. Et ce jour-là, le docteur Thirion se tire une balle dans la tête. Il y a quelque chose de Dumas, de Balzac dans l'écriture de Pierre Lemaître. C'est un feuilletoniste extraordinaire, parce qu'il a l'art de mettre dans sa tragédie de la gouaille et du burlesque. C'est un formidable conteur. Lisez-le et lisez surtout les deux précédents, ça vaut le coup.
Merci mille fois. Il est 7h48, nous avons rendez-vous avec Federico Fellini. Mon cher Dimitri, mon cher Emmanuel et ma chère Elodie, nous nous retrouvons avec bonheur demain.